et dans une première interview que vous pouvez retrouver sur notre site fréquencemistral.com, la chercheuse indépendante qui travaille autour du son, Juliette Vauclair, présentait les ateliers de critique sonore, un dispositif d'écoute active à plusieurs pour tenter de comprendre, de saisir le son ensemble et en l'occurrence autour d'une création sonore. Juliette Vauclair est aussi autrice et elle nous parle de son dernier ouvrage pour cette deuxième interview. Bonjour Juliette Vauclair, vous avez notamment écrit trois livres et le dernier c'est L'orchestration du quotidien, design sonore et écoute au 21e siècle et c'est aux éditions La Découverte. Alors ce qui intrigue et saute aux yeux c'est le titre, c'est le design sonore. On se demande ce que c'est et en même temps dans votre livre vous dites vous-même que vous n'êtes pas sûr que ça existe mais vous partez du fait que... On fait l'hypothèse que ça existe et c'est le pacte donné avec le lectrice ou le lecteur pour pouvoir découvrir ce monde du design sonore. En quelques mots tout de même, est-ce qu'on peut essayer de l'ébaucher ?
Oui, c'est appliquer en réalité l'exercice de la critique sonore à l'ensemble de ce qu'on peut entendre. C'est par exemple, écouter le son de la SNCF et le critiquer, savoir l'analyser. Écouter le son que vont faire des chips en craquant, parce que c'est un son qui est composé, on ne sait pas forcément, mais c'est un son qui est savamment calibré. Écouter le son que fait une ville, où là, pour le coup, il y a une part de composition, mais qui n'est pas forcément musicale ou esthétique. C'est-à-dire, on entend beaucoup des sons de voiture, mais ça, c'est le résultat d'un certain état de la société, de certains choix d'urbanisme, certains choix architecturaux, etc. Et donc, le design sonore, pour moi, ça va du plus petit bip. Les petits bips d'alarme, par exemple, c'est du design sonore, jusqu'à l'ambiance d'une ville, en passant par plein d'états intermédiaires, et notamment le design sonore cinématographique, c'est-à-dire tout ce qui, dans un film, relève du bruitage, relève de différentes textures, différentes ambiances, ou bien ça passe aussi par exemple, je parlais des centres commerciaux, le choix des ambiances musicales, ça relève d'un design sonore de l'espace. Dans ce livre, j'essaie de l'aborder par plusieurs objets différents, plusieurs sous-chapitres différents, pour en dresser des histoires parcellaires. Et volontairement, je creuse sur une question qui m'obsède à chaque fois depuis 10 ans. Quoi. Ça fait plus de 10 ans même que je travaille sur ces questions. Donc, de parler de comment est-ce que le design sonore est né, le design sonore des objets, comment est-ce qu'il est né, d'évoquer comment le design sonore au cinéma est né et comment il a évolué, d'évoquer comment le design sonore à l'hôpital, qu'est-ce qui le caractérise, mais aussi d'évoquer simplement notre écoute. C'est pour ça dans ce titre, il y a aussi « Écoute au XXIe siècle ». Il est beaucoup question aussi de comment est-ce qu'on écoute au XXIe siècle, parce qu'on n'écoute pas aujourd'hui comme on écoutait dans les siècles précédents, ou même comme on écoutait il y a 50 ans. Notre écoute, elle évolue, elle est située historiquement. Et c'est ça que j'essaye de faire sentir, et qu'on peut, nous, également, déplacer notre écoute, la faire évoluer et pas la prendre pour quelque chose de naturel, qui est là de toute éternité, mais comme quelque chose qui est profondément construit socialement et culturellement. J'essaie d'aborder ça à travers plein d'objets différents de notre quotidien.
Mais juste une question sur ce concept, cette nomination de design sonore. Est-ce que c'est utilisé par les entreprises dans des cabinets pour définir le son comme on définirait, je sais pas, la couleur, la forme, etc. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les sons sont calculés, on ne sait pas forcément, en ouvrant un paquet de chips ou en mangeant des chips, tous ces petits sons du quotidien dont on ne fait plus attention, eh bien, ils ont été pensés.
Oui, il y a justement, les logos sonores ou l'audio branding, lui est né formellement dans les années 1990. Mais aujourd'hui, le marketing auditif, il s'est énormément développé dans ces dernières années, on va dire dans ces 15 dernières années, à travers plein de nouveaux types d'objets sonores, dans lesquels j'intègre aussi, par exemple, les annonces des tramways dans les villes où il y a des tramways qui ont été construits à partir des années 2000. Généralement, c'est un compositeur, quasi exclusivement des hommes qui les ont fait, avec l'idée de véhiculer aussi une image un peu aseptisée, très consensuelle du territoire qui est traversé. Et puis, il y a du design sonore à plein d'autres niveaux. Par exemple, on parlait des voitures, mais les voitures électriques sont maintenant dotées de haut-parleurs qui diffusent vers l'extérieur du véhicule pour qu'elles puissent être audibles des piétonnes et des piétons et des autres véhicules, en tout cas à basse vitesse, puisqu'à partir de 30 km/h, on entend les bruits de roulement au sol, on entend le frottement de l'air sur la carrosserie. Mais en dessous, la voiture est effectivement très silencieuse si elle n'a pas de haut-parleurs qui diffusent. Et pareil, également des haut-parleurs vers l'intérieur qui vont diffuser à l'intérieur de l'habitacle des sons qui sont à la fois des sons fonctionnels, c'est-à-dire qu'il y a, bah, par exemple un clignotant qu'on repère facilement, enfin, qui est très, très immédiatement compris en fait dans sa fonction. Le son de clignotant, il est aussi construit en partie par le service marketing de l'entreprise, qui va dire que les valeurs de l'entreprise font que le son doit être véhiculer telle ou telle image de la voiture. Et voilà, en fonction des gammes de la voiture, en fonction de si elle veut donner une image de très grande puissance, les Harley Davidson électriques, par exemple, font le son de jet de combat. Ou alors, au contraire, si elle veut donner une image de voiture familiale, par exemple, la Zoé diffuse un son très atmosphérique, très doux, qui n'est pas d'ailleurs sans se référer au son des vaisseaux spatiaux de Star Wars. C'est aussi essayer de créer des points d'accroche entre ces différents types de design et voir quelle culture commune ils construisent.
Et la forme de votre livre, c'est-à-dire c'est un essai critique, c'est une traversée subjective, c'est un essai littéraire. Peut-être vous le définissez pas en tant que tel. En tout cas, c'est une invitation à découvrir tous ces sons.
C'est une forme d'écriture littéraire, oui, parce que je pense que il n'y a pas d'écoute objective et que l'écoute est un acte de création en tant que tel. Et donc, je peux pas dissocier le travail sur les objets sonores comme de design que j'étudie de ma propre écoute à moi. C'est pas, voilà, ce sont pas deux choses qu'on peut scinder, qu'on peut mettre l'une en face de l'autre. Nécessairement, mon acte d'écoute va définir la façon de l'analyser, s'entremêler avec l'histoire industrielle de ces sons, avec l'histoire de l'évolution de nos sociétés, de nos manières d'écouter, de nos manières d'être ensemble dans une société, de définir ce qui est un son agréable, ce qui est un son désagréable, ce qui évolue grandement au fil du temps. Et donc effectivement, c'est un parcours volontairement subjectif, mais qui n'en est pas moins très documenté. C'est pour laisser une grande place aussi aux lectrices et aux lecteurs, pour les inviter en fait à déplacer leur point d'écoute et surtout à éveiller en fait une écoute au quotidien, dans n'importe quel moment de leur existence, en fait, que ce soit dans leur maison ou en dehors, au bureau ou dans les transports, que tous ces moments-là peuvent être des moments d'un acte créatif d'écoute.
Et ouvrir, pourquoi pas, vers une émancipation sonore.
Exactement, ouais, j'essaye de donner des outils d'émancipation par le son, parce que l'idée de dire que ces sons ont été construits dans le but de véhiculer certaines images de certaines sociétés, donc dans un but publicitaire, en fait, pour le dire vite fait, ou bien parfois certains sons ont été conçus pour orienter nos comportements. Je pense notamment au son du métro à Paris, où l'objectif c'est que les gens, par exemple, aux valideurs du métro, accélèrent en fait leur passage au moyen d'un petit son, comme le son des caissières au supermarché. Le petit son que vous entendez à chaque fois permet aux caissières de savoir que l'objet est bien scanné, le produit est bien scanné, mais également les incite à tenir un rythme soutenu. C'est tout ça, savoir qu'il y a une part en fait de ces sons qui ont une intention masquée, qui n'est pas forcément qui se donne pas forcément telle quelle à comprendre, mais aussi que nous on a beaucoup d'outils en fait pour décrypter ces sons, pour les analyser. Par exemple, moi, la musique d'ambiance, j'ai beau ne pas apprécier généralement les choix de playlists qui sont diffusés, et pour autant, écouter la musique d'ambiance, pour moi, c'est un exercice passionnant à plein d'autres niveaux. J'écoute la manière dont elle peut se propager dans l'espace, qui est très différent à chaque fois, la manière dont elle rentre en contradiction avec plein d'autres sons. Quel est le choix de playlist qui a été fait? Est-ce que les playlists sont mixées avec des fondus enchaînés ou bien sont séparées comme les pièces d'un CD? Tout ça donne plein d'informations sur la société qui va diffuser ses playlists. Et donc, l'écoute critique, justement, permet de déjouer les intentions masquées des fabricants, éventuellement, et puis de nous redonner, en fait, une puissance d'agir dans le monde.
Et pour plus d'informations sur les différents travaux de Juliette Vauclair, ainsi que sur les ateliers d'écoute critique qu'elle propose, rendez-vous sur le site internet intempestive.net.